Professeur Jean-Pierre Clément, bonjour. Professeur Jean-Pierre Clément, vous êtes de Limoges et vous travaillez au Centre de mémoire de ressources et de recherche à Limoges.
Tout à fait, j'en suis le coordinateur et nous faisons une recherche qui est orientée principalement sur les liens entre la personnalité et la cognition.
Alors professeur, d'après ce que j'ai cru comprendre de votre exposé, il y a 5 facteurs centraux de la personnalité. Est-ce que vous pouvez nous en parler, les Big Five ?
Alors, 5 facteurs centraux pour le modèle qui a été proposé par Costa et McRae, qui effectivement s'appelle le Big Five du fait de sa popularité. 5 facteurs qui représentent en fait des dimension dynamique de la personnalité. On n'a pas l'habitude de parler comme ça. Sous-entendu, je donne un exemple, le caractère consciencieux de quelqu'un, sous-entendu, non pas que l'aspect consciencieux lorsqu'on en parle populairement, mais aussi son aspect en termes de compétences à s'adapter aux situations et à les mener à terme lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des émotions qui sont difficiles à supplanter, par exemple. Et c'est une dimension dans notre recherche qui s'avère être une dimension, lorsqu'elle est de bonne qualité, forte, élevée, protectrice de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer.
Professeur, je crois qu'il y a 3 sous-types, peut-être, je ne sais pas si le terme est adapté. Je crois qu'il y a A, B et C. Et je crois que cette catégorie, la C notamment, est très intéressante pour vous.
Alors ça, c'est une autre approche de la personnalité qu'on appelle l'approche catégorielle, qui effectivement découpe les différents types de personnalité en 3 clusters, le cluster A, le B, le C. Effectivement, le cluster C est reconnu désormais comme étant le plus vulnérable. Alors, non pas que par rapport au risque de développer une démence, ce que nous avons montré, mais aussi plus vulnérable à développer des troubles dépressifs. En tout cas, dans ce cluster C, ce qui les rend commun, ces 3 personnalités qui sont la personnalité obsessionnelle, ça veut bien dire ce que ça veut dire, qui a une tendance à beaucoup douter dans la vie, à avoir un vécu très auto-centré sur elle-même, avec peu d'investissement dans la relation aux autres, qui est très dans le doute tout le temps. La personnalité évitante, qui va éviter toutes les situations à risque, qui peuvent être dangereuses, qui peuvent être préjudiciables. Et enfin, la 3e personnalité, qui est la plus vulnérable vraisemblablement, c'est celle qui s'appelle la personnalité dépendante, qui rend compte du fait d'une personnalité qui est toujours dans la soumission par rapport aux autres et qui peut accepter des situations qui lui sont très défavorables, de peur d'être abandonné. Et ces 3 personnalités sont les personnalités les plus à risque d'évoluer vers une démence s'ils rencontrent sur le chemin de leur existence des événements de vie traumatiques face auxquels ils n'auront pas su s'adapter.
Alors c'est bien ceci qui est important, l'adaptation. Comment peut-on, peut-être d'après vos recherches, être le mieux préparé, même si l'on se situe dans ce cluster C, à ne pas développer une démence ?
Alors l'idée serait la suivante, mais c'est un paradigme de recherche, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore des conclusions hautement validées. C'est que premièrement, ce cluster C avec ses 3 personnalité vulnérable a un point commun aussi sur le plan neurobiologique, c'est qu'ils ont un fond neurobiologique cérébral où l'activité sérotoninergique est basse. L'activité sérotoninergique basse, je vous le rappelle, est quelque chose qui existe dans la dépression. Autrement dit, ce sont probablement, on peut les assimiler à des personnalités subdépressives qui vont réagir facilement de cette façon. Et on sait maintenant les liens forts qui peuvent relier la dépression et la démence. Et donc, ce risque de démence est plus fort chez eux. Donc, 2 hypothèses pour essayer de les rendre plus forts, ces patients. Je les appelle patients déjà parce que je les sens tellement vulnérables que ce sont de potentiels patients malades. C'est d'une part repérer chez eux donc cette vulnérabilité neurobiologique par, vous l'avez écrit sur votre document, l'inventaire de tempérament et de caractère qui permet de voir la faiblesse de l'activité sérotoninergique puisque celle-ci est corrélée à une autre dimension dans un autre modèle de compréhension de la personnalité qui est le modèle de Cloninger et la dimension concernée s'appelle l'évitement du danger. Évitement du danger, personnalité évitante, on sent bien les liens sémantiques qui peuvent exister. Donc cet évitement du danger est corrélé à une basse activité sérotoninergique. J'ai envie de dire que la boucle est bouclée. Alors est-ce que ça voudrait dire que ça nous entraînerait à penser qu'on peut peut-être donner à ces personnes un médicament qui relance l'activité sérotoninergique comme on le donne aux patients dépressifs? On est parti peut-être dans cette direction-là. Alors après, il est effectif qu'on peut aussi envisager une approche psychothérapique dans la mesure où ces personnes-là, ce qui est intéressant et important à considérer, c'est leur histoire passée. Parce que si on y trouve effectivement des événements traumatiques durant l'enfance, c'est encore un facteur de vulnérabilité supplémentaire. Un événement traumatique durant l'enfance aura des conséquences justement sur la construction de la personnalité, mais aussi sur la construction du cerveau par lui-même, et en particulier sur sa configuration hormonale, et notamment sur la configuration hormonale qui joue un rôle dans la gestion du stress. C'est ce fameux axe corticotrope ou axe du cortisol qui, s'il est perturbé dans sa maturation durant l'enfance, va après mal fonctionner face aux autres aléas de la vie, face aux autres stress. Et on parle à ce moment-là d'axe dérégulé qui entraînera qu'à chaque stress, les taux de cortisol resteront trop longtemps anormalement élevés.
Nous l'avons vu sur une de vos diapositives où on voyait ce taux-là redescendre très très lentement par rapport à un taux standard qui lui redescendait très rapidement après un pic élevé.
Alors, ces excès de cortisol, lorsqu'ils sont durables dans l'organisme, sont tout à fait dommageables, délétères pour beaucoup d'organes. Pour ce qui nous intéresse, ce sont donc les neurones. Et il y a des régions cérébrales qui sont plus vulnérables aux excès de cortisol. On a montré dans des études in vitro, sur des cultures de neurones, que si l'on mettait trop de cortisol, on voyait apparaître les lésions caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. On peut donc imaginer qu'il y a un rôle joué par l'excès de cortisol dans ces régions-là pour finalement stimuler le codage génétique pour ces protéines anormales, comme on en a parlé dans d'autres interventions, la fameuse protéine bêta-amyloïde en particulier.
Professeur Clément, je suppose que dans le futur, vous avez peut-être d'autres recherches qui seraient peut-être intéressantes d'évoquer.
Oui, c'est ce que j'ai un petit peu évoqué ce matin, à savoir continuer à vérifier les liens entre les personnalités et surtout les personnalités vulnérables, leur histoire de vie et en particulier les événements de vie traumatique qu'ils ont pu vivre dès l'enfance, et surtout essayer de le corréler avec une vulnérabilité au stress, autrement dit une dérégulation de l'axe du stress, du cortisol, en simulant une situation de stress par injection de ce qu'on appelle du CRF, donc qui va faire monter l'activité cortisolique comme un vrai stress. Et ce qu'on veut apprécier, c'est son retour à la normale, qui chez les gens vulnérables va être dérégulé et va revenir trop lentement à une situation de normalité, ce qui, je vous le rappelle, rend compte d'un état dans lequel le cortisol durablement élevé dans l'organisme peut avoir des effets agressifs, surtout sur les neurones de régions sensibles du cerveau, comme l'hippocampe.
Professeur Clément, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc professeur au Centre de recherche mémoire à Limoges.
Merci beaucoup.